Chapitre 6, ministre. 3 mois ont passé depuis ce voyage au Mont de Cordoue. Le Parlement vient de s'ouvrir à Versailles sous un déluge de novembre qui rejoint les bassins du parc au ciel bas, étouffé de brume, enveloppe les deux chambres de tristesse humide et d'obscurité, mais ne refroidit pas les colères politiques. La session s'annonce terrible. Des trains de députés, de sénateurs se croisent, se succèdent, sifflent, grondent, secouent leur fumée menaçante, animés à leur manière des haines et des intrigues qu'ils convoient sur des torrents de pluie. Et dans cette heure de wagon, dominant le bruit des roues sur le fer, les discussions continuent avec la même âpreté, la même fureur qu'à la tribune. Le plus âgé de tous, le plus bruyant de tous, c'est Roumestan. Il a déjà prononcé 2 discours depuis la rentrée. Il parle dans les commissions, dans les couloirs, à la gare, à la buvette, fait trembler la toiture en vitrage des salons de photographie où se réunissent toutes les droites. On ne voit que sa silhouette remuante et lourde, sa grosse tête toujours en rumeur, la houle de ses larges épaules redoutées du ministère qu'il est en train de tomber, selon les règles, en souple et vigoureux lutteur du midi. Ah, le ciel bleu, les tambourins, les cigales, tout le décor lumineux des vacances, oh, comme il est loin, fini, démonté. Numa n'y songe pas une minute, pris dans le tourbillon de sa double vie d'avocat et d'homme politique. Car à l'exemple de son vieux maître Sanier, en entrant à la chambre, il n'a pas renoncé au palais, et tous les soirs, de 6 à 8 heures, on se presse à la porte de son cabinet de la rue Scribe. Vous diriez une légation, ce cabinet de Roumestan. Le premier secrétaire, bras droit du leader, son conseil, son ami, est un excellent avocat d'affaires appelé Méjean, méridional comme tout l'entourage de Numa, mais du midi Sévenol, le midi des pierres, qui tient plus de l'Espagne que de l'Italie et garde en ses allures, en ses paroles, la prudente réserve et le bon sens pratique de Sancho Trapu. Trapu, robuste, déjà chauve, avec le teint bilieux des grands travailleurs, Méjean fait à lui seul toute la besogne du cabinet, déplaie les dossiers, prépare les discours, cherche à mettre des faits sous les phrases sonores de son ami, de son futur beau-frère, disent les bien informés. Les autres secrétaires, messieurs de Rochemaure et de Lapparra, 2 jeunes stagiaires apparentés à la plus ancienne noblesse provinciale, ne sont là que pour la montre et font chez Roumestan leur noviciat politique. Lapparra, au grand beau garçon, bien jambé, teint chaud, barbe fauve, fils du vieux marquis de Lapparra, chef du parti dans le Bordelais, montre bien le type de ce midi créole, hableur, aventureux, friand de duels et d'escampatives. 5 ans de Paris, 100 000 francs, roustillés au cercle et payés avec les diamants de la mer, ont suffi pour lui donner l'accent du boulevard, un beau ton de gratin croustillant et doré. Tout autre est le vicomte Charles-Exis de Rochemaure, compatriote de Numa, élevé chez les pères de l'Assomption, ayant fait son droit en province sous la surveillance de sa mère et d'un abbé, et gardant de son éducation des candeurs, des timidités de lévite, en contraste avec sa royale Louis XIII, l'air à la fois d'un raffiné et d'un jocrisse. Le grand Lapparra essaye d'initier ce jeune pourceauniac à la vie parisienne. Il lui apprend à s'habiller, ce qui est chic et pas chic, à marcher la nuque en avant, la bouche abrutie, à s'asseoir d'une pièce, les jambes allongées, pour ne pas marquer de genoux au pantalon. Il faudrait lui faire perdre cette voix naïve aux hommes et aux choses, ce goût du grimoire qui le classe gras de papier. Mais non, le vicomte aime sa besogne, et quand Roumestan ne l'emmène pas à la chambre ou au palais, comme aujourd'hui, il reste assis pendant des heures à grossoyer devant la longue table installée pour les secrétaires à côté du cabinet du patron. Le bordelais, lui, a roulé un pouf contre la croisée, et dans le jour qui tombe, le cigare aux dents, les jambes étendues, il regarde à travers la pluie et le gâchis, fumant de l'asphalte, la longue file d'équipages alignés, le fouet haut au ras du trottoir, pour le jeudi de Madame Roumestan. Que de monde! Et ce n'est pas fini, il arrive encore des voitures. L'apparat, qui se vante de connaître à fond la grande livrée de Paris, annonce à mesure tout haut « Duchesse de San Domino, Marquis de Bellegarde, Mazette, les mots conseils aussi. Ah ça, qu'est-ce qu'il y a donc ?» Et se tournant vers un maigre et long personnage qui sèche devant la cheminée ses gants de tricot, son pantalon de couleur, trop mince pour la saison et relevé avec précaution sur des bottines d'étoffe. « Savez-vous quelque chose, mon père ?»« Quelque chose, certainement. » Bon père, le mameluc de Roumestan, est comme un quatrième secrétaire qui fait le dehors, va aux nouvelles, promène dans Paris la gloire du patron. Ce métier ne l'enrichit guère à en juger sur sa mine. Mais ce n'est pas la faute de Numa. Un repas par jour, un demi-louis de loin en loin, on n'a jamais pu faire accepter davantage à ce singulier parasite dont l'existence reste un problème pour ses plus intimes. Lui demander par exemple s'il sait quelque chose, douter de l'imagination de Bompard est une bonne naïveté. « Oui, monsieur, et quelque chose de très grave. »« Quoi donc ? » ?»« On vient de tirer sur le maréchal. » Un instant de stupeur. Les jeunes gens se regardent, regardent Bompard. Puis la para, rallongée dans son pouf, demande tranquillement « Et vos asphaltes, mon bon, où en sont-elles ?» « Ah oui, les asphaltes, oh, j'ai une affaire bien meilleure !» Sans s'étonner autrement du peu d'effet produit par l'assassinat du maréchal, le voilà racontant sa combinaison nouvelle. « Oh, une affaire superbe et si simple !» Il s'agissait de rafler les 120 000 francs de primes que le gouvernement suisse donne chaque année dans les tirs fédéraux. Bompard, dans sa jeunesse, tirait supérieurement les alouettes. Il n'aurait qu'à se refaire un peu la main. C'était 120 000 francs de rente assurés jusqu'à la fin de sa vie. Et de l'argent facile à gagner, au moins. La Suisse à petite journée, de canton en canton, le rifle sur l'épaule. Alors le visionnaire s'animait, décrivait, grimpait au glacier, descendait des vals et des torrents, secouait les avalanches devant les jeunes gens ébahis. De toutes les inventions de cette cervelle frénétique, celle-là était encore la plus extraordinaire, débitée d'un air convaincu, avec une fièvre dans le regard, un feu intérieur qui bossuait le front, les crevassait de rides profondes. La brusque arrivée de Méjean, revenant du palais, tout essoufflé, arrêta ses divagations. « Grande nouvelle !» dit-il en jetant sa serviette sur la table. « Le ministère est à bas. »« Pas possible !»« Oui, et Roumestan prend l'instruction publique. »« Je le savais, » dit Bompard. Et voyant leur sourire, « Parfaitement, messieurs, j'étais là-bas, j'en viens. »« Mais vous ne le disiez pas. »« À quoi bon ? On ne me croit jamais. » « C'est la faute de mon accent, » ajouta-t-il avec une candeur résignée dont le comique fut perdu dans l'émoi général. « Roumestan ministre ! Ah, mes enfants ! Quel malin que le patron !» répétait le grand Lapara, s'esclaffant dans son fauteuil et les jambes au plafond. « A-t-il bien mené son affaire ?» Hochemort se dressa scandalisé. « Ah, ne parlons pas de malice, mon cher. Roumestan est une conscience. Il va droit devant lui comme un boulet. Oh, d'abord, mon petit, il n'y a plus de boulets, il n'y a que des obus. Ça fait ceci, l'obus. Et du bout de sa bottine, il indiquait la trajectoire. Malingueur, jobard, messieurs, messieurs! Et mes gens, à part lui, songeaient à la singularité de cette nature, à ce compliqué roumestan qui, même vu de tout près, pouvait être jugé aussi diversement. Un malin, une conscience. Ce double courant d'opinion se retrouvait dans le public. Lui, qui le connaissait mieux, savait quel fond de légèreté et de paresse modifiait ce tempérament d'ambitieux à la fois meilleur et pire que sa réputation. Mais était-ce bien vrai, cette nouvelle du portefeuille? Curieux de s'en assurer, Méjean jeta dans la glace un coup d'œil à sa tenue et, traversant le palier, passa chez Madame Roumestan. Dès l'antichambre où les valets de pied attendaient des manteaux de fourrures au bras, se percevait un murmure de voix assourdie par les hauts plafonds, le luxe encombrant des tentures. D'ordinaire, Rosalie recevait dans son petit salon, meublé en jardin d'hiver, de sièges légers, de tables coquettes, avec du jour tamisé entre les feuilles luisantes des plantes vertes contre les croisées. Cela suffisait à son intimité de bourgeoise parisienne, perdue dans l'ombre de son grand homme, désintéressée de toute ambition, et passant en dehors du petit cercle où sa supériorité était connue, pour une bonne personne, sans importance. Mais aujourd'hui, les deux pièces de réception étaient remplies, bruissantes, et il arrivait du monde continuellement, le banc et l'arrière-banc des amis, les connaissances de ces figures sur lesquelles Rosalie n'aurait pu mettre un nom. Très simple, dans une robe à reflets violets qui dégageait bien sa taille svelte, l'harmonie élégante de tout son être, elle accueillait chacun avec le sourire égal, un peu fière, l'air refrégeant dont parlait jadis tant de Portal. Pas le moindre éblouissement de sa nouvelle fortune, un peu de surprise plutôt et d'inquiétude, mais qui ne se trahissait en rien. Elle s'activait de groupe en groupe, pendant que le jour tombait rapidement dans ce premier étage parisien et que les domestiques apportant des lampes, allumant les candélabres, le salon prenait sa physionomie des soirs de fête, avec ses riches étoffes scintillantes, ses tapis d'Orient aux couleurs de pierreries. Ah, monsieur Méjean! Rosalie se dégagea une minute, vint au-devant de lui, heureuse d'une intimité retrouvée dans la cohue mondaine. Leurs deux natures s'entendaient. Ce méridional refroidi et cette parisienne vibrante avaient de semblables façons de juger ou de voir, équilibraient bien les défaillances et les emportements de Numa. Je venais m'assurer si la nouvelle était vraie, maintenant je n'en doute plus, fit-il en montrant les salons pleins. Elle lui passa la dépêche qu'elle avait reçue de son mari. Et tout bas, qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est lourd, mais vous serez là. Et vous aussi, dit-elle en lui serrant les mains et les quittant pour répondre à de nouveaux visiteurs. C'est qu'il en venait toujours et personne ne s'en allait. On attendait le leader, on voulait tenir de sa bouche les détails de la séance, comment d'un coup d'épaule il les avait tous bousculés. Déjà, parmi les nouveaux venus, quelques-uns rapportaient des échos de la chambre, des bribes de discours. Des mouvements se faisaient autour d'eux, un frémissement d'aise. Les femmes surtout se montraient curieuses, passionnées. Sous les grands chapeaux qui entraient en scène cet hiver-là, leurs jolis visages avaient aux pommettes ce léger feu rose, cette fièvre que l'on voit aux joueuses de Monte-Carlo autour du 30 et 40. Était-ce les modes de la fronde, les feutres à longues plumes qui les disposaient ainsi à la politique? Mais toutes ces dames y semblaient très fortes, et dans le plus pur langage, toutes célébraient la gloire du leader. Du reste, ce n'était qu'un cri partout. Oh, quel homme! Quel homme! Dans un coin, le vieux Béchu, professeur au Collège de France, très laid, tout en nez, un gros nez de savant allongé sur les livres, prenait texte du succès de Roumestan pour discuter une de ses thèses favorites. La faiblesse du monde moderne vient de la place qui prennent la femme et l'enfant, ignorant ces chiffons, caprices et légèreté. Eh bien, monsieur, la force de Roumestan est là. Il n'a pas eu d'enfant, il a su échapper à l'influence féminine. Aussi, quelle ligne droite et ferme, pas un écart, pas une brisure. Le grave personnage auquel il s'adressait, conseiller référendaire à la Cour des comptes, regard ingénu, petit crâne rond et ras où la pensée faisait un bruit de graines sèches dans une courge vide, se rengorgeait magistralement, approuvait avec un air de dire « Et moi aussi, monsieur, je suis un homme supérieur. Moi aussi, j'échappe à l'influence dont vous parlez. » Voyant qu'on s'approchait pour écouter, le savant haussa le ton, cita des exemples historiques, César, Richelieu, Frédéric, Napoléon, prouva scientifiquement que la femme, sur l'étiage des êtres pensants, était à plusieurs échelons, au-dessus de Rome, au-dessous de l'homme. En effet, si nous examinons les tissus cellulaires... Quelque chose de plus curieux à examiner, c'était la physionomie des deux femmes de ces messieurs, qui les écoutaient assises l'une à côté de l'autre et buvant une tasse de thé. Car on venait de servir ce petit linge de 5 heures qui mêle à l'excitation des causeries les cliquetis des cuillères fines sur des porcelaines du Japon, la chaude vapeur du samovar et des pâtisseries sortant du four. La plus jeune, Madame de Boë, par ses influences de famille, avait fait de l'homme à la courge son mari, noble décavé, père d'une dette, un magistrat de la Cour des comptes. Et l'on frémissait de savoir le contrôle des derniers dédaigneux publics dans les mains de ce gommeux qui avait si vite dévoré la fortune de sa femme et la sienne. Madame Béchu, ancienne belle personne, gardant encore de grands yeux spirituels, un visage aux traits fins, dont la bouche seule, par une sorte de détirement douloureux, racontait les combats contre la vie, l'acharnement d'une ambition sans relâche ni scrupule, s'était dévouée tout entière à pousser aux premières places la médiocrité banale de son savant, avait forcé pour lui les portes de l'Institut, du Collège de France, par ses relations malheureusement trop connues. Tout un poème parisien dans le sourire que les deux femmes échangeaient par-dessus leurs tasses. Et peut-être qu'en cherchant bien tout autour, parmi ces messieurs, on en aurait trouvé beaucoup d'autres à qui l'influence féminine n'avait pas nui. Tout à coup, Roumestan entra. Au milieu d'un brouhaha de bienvenue, il traversa le salon vivement, alla droit à sa femme, l'embrassa sur les deux joues, avant que Rosalie eût pu se défendre de cette manifestation un peu gênante, mais qui était le meilleur démenti aux assertions du physiologiste. Toutes les dames crièrent « Bravo !» Il y eut encore un échange de poignées de main, des fusions, puis un silence attentif, lorsque le leader, appuyé à la cheminée, commença le bulletin rapide de la journée. Le grand coup préparé depuis une semaine, les marches et contre-marches, la rage folle de la gauche au moment de la défaite, son triomphe à lui, son irruption foudroyante à la tribune, jusqu'aux intonations de sa jolie réponse au maréchal. « Ça n'est pas de vous, monsieur le président !» Il notait tout, précisait tout avec une gaieté, une chaleur communicative. Ensuite, Roumestan devenait grave, énumérait les lourdes responsabilités de son poste. L'université à réformer, toute une jeunesse à préparer pour la réalisation des grandes espérances. Le mot fut compris, salué d'un hurrah. Mais il s'entourait d'hommes éclairés, ferait appel à toutes les bonnes volontés, tous les dévouements. Et l'œil ému, il les cherchait dans le cercle serré autour de lui. Appel à mon ami Béchu, à vous aussi, mon cher de Boé. L'heure était si solennelle que personne ne se demanda en quoi l'hébétement du jeune maître des requêtes pourrait servir les réformes de l'université. Du reste, le nombre d'individus de cette force-là, auxquels Roumestan avait demandé dans l'après-midi leur collaboration au terrible devoir de l'instruction publique, était vraiment incalculable. Pour les beaux-arts, il se sentait plus à l'aise, et on ne lui refuserait pas, sans doute. Un murmure flatteur de rire d'interjection l'empêcha de continuer. Il n'y avait là-dessus qu'une voix dans Paris, même chez les plus hostiles. Numa était l'homme indiqué. Enfin, on allait avoir un jury, des théâtres lyriques, un art officiel. Mais le ministre coupa court au dithyrambe et fit remarquer, sur un ton familier, plaisant, que le nouveau cabinet se trouvait presque entièrement composé de méridionaux. Sur 8 ministres, le Bordelais, le Périgord, le Languedoc, la Provence en avaient fourni 6. Et s'excitant, « Oh, le midi monte ! Oh, le midi monte ! Paris est à nous ! Nous tenons tout ! Il faut en prendre votre parti, messieurs ! Pour la seconde fois, les Latins ont conquis la Gaule !» Il était bien, lui, un Latin de la conquête, avec sa tête de médaille au large méplat sur les joues, et son teint chaud, et ses brusques allures de sans-gêne dépaysé dans ce salon si parisien. Sur les rires et les applaudissements que soulevait son mot final, il quitta la cheminée lestement en bon comédien qui essaie de se retirer juste après les faits, fit signe à Méjean de le suivre et disparut par une des portes intérieures, laissant à Rosalie le soin de l'excuser. Il dînait à Versailles chez le maréchal. Il lui restait à peine le temps de s'apprêter et de donner quelques signatures. « Venez m'habiller, » dit-il au domestique en train de mettre les 3 couverts. « Monsieur et madame, une bonne part autour de la corbeille fleurie, tous les jours renouvelés que Rosalie voulait sur la table à chaque repas. » Il se sentait tout joyeux de ne pas dîner là. Le tumulte d'enthousiasme qu'il avait laissé sur ses talons s'entendait derrière la porte fermée, l'excitait à chercher encore le monde, les lumières. Et puis le méridional n'est pas homme d'intérieur. Ce sont les gens du Nord, les climats pénibles qui ont inventé le home, l'intimité du cercle de famille auquel la Provence et l'Italie préfèrent les terrasses des glaciers, le bruit et l'agitation de la rue. Entre la salle à manger et le cabinet de l'avocat, il fallait traverser le petit salon d'attente ordinairement plein de monde à 7 heures, de gens inquiets et guettant à la pendule, l'œil sur des journaux à images avec toutes les préoccupations d'un procès. Ce soir, mes gens les avaient congédiés, pensant bien que Numa ne pourrait donner de consultation. Quelqu'un pourtant était resté, un grand garçon, empaqueté dans des vêtements de confection, gauche comme un sous-officier en bourgeois. « Eh, adieu, monsieur Roumestan, comment ça va ? En voilà du temps que je vous espère. » Cet accent, ce teint bistré, cet air vainqueur et jeannot, Numa se souvenait bien d'avoir vu cela quelque part, mais où donc ? « Vous ne me connaissez plus ?» fit l'autre. « Valmajour, le tambourinaire !»« Ah, oui, très bien, parfaitement !» Il voulait passer, mais Valmajour lui barrait la route, planté en arrêt, racontant qu'il était arrivé de l'avant-veille. « Seulement, vous savez, j'ai pas pu venir plus tôt. Quand on débarque comme ça toute une famille dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est difficile de s'installer. Toute une famille, dit Aumestan, les yeux élargis. Mais oui, le papa, la sœur, on a fait ce que vous disiez. Le prometteur eut un geste de gêne et de dépit, comme chaque fois qu'il se trouvait en face d'une de ses cartes à payer, de ses échéances, prises d'enthousiasme dans un besoin de parler, de donner, d'être agréable. Mon Dieu! Bon, il ne demandait pas mieux que de servir ce brave garçon. Bon, il verrait, chercherait le moyen. Mais il était très pressé ce soir. Des circonstances exceptionnelles. La faveur dans le chef de l'État. Voyant que le paysan ne s'en allait pas, « Entrez par ici !» dit-il vivement, et ils passèrent dans le cabinet. Pendant qu'assis à son bureau, il lisait et signait en hâte plusieurs lettres, Valmajou regardait la vaste pièce somptueusement tapissée et meublée, la bibliothèque qui en faisait le tour, surmontée de bronze, de bustes, d'objets d'art, souvenirs de causes glorieuses, le portrait du roi, signé de quelques lignes, et il se sentait impressionné par la solennité de l'endroit, la raideur des sièges sculptés, cette quantité de livres, surtout par la présence du domestique correct, habillé de noir, allant et venant, étalant avec précaution sur les fauteuils des vêtements et du linge frais. Mais là-bas, dans la lumière chaude de la lampe, la bonne face large, le profil connu de Roumestan, le rassurait un peu. Son courrier prêt, le grand homme passa aux mains du valet de chambre, et, la jambe tendue pour qu'on lui retirât pantalon et chaussures, il interrogeait le tambourinaire, apprenait avec terreur qu'avant de venir, les Valmajour avaient tout vendu, les mûriers, les vignes et la ferme. « Vendu la ferme, malheureux !» Ah oui, la sœur était bien un peu effrayée, mais le papa et moi nous avons tenu bon. Comme j'y disais, qu'est-ce que tu veux qu'on risque puisque Dumas est là-bas, puisque c'est lui qui nous fait venir? Il fallait toute son innocence pour oser parler du ministre devant lui avec ce sans-façon. Mais ce n'est pas cela qui saisissait le plus Roumestan. Il songeait aux nombreux ennemis que lui avait déjà causé cette incorrigible manie de promettre. Quel besoin, je vous demande, d'aller troubler la vie de ces pauvres diables. Et les moindres détails de sa visite au mont de Cordoue lui revenaient. Les résistants de la paysanne, ses phrases pour la décider. Mais pourquoi? Mais quel démon avait-il en lui? Il était affreux, ce paysan. Quant à son talent, Dumas ne s'en souvenait guère, ne voyant que la corvée de toute cette tribu qui lui tombait sur les bras. Pas d'avance, il entendait les reproches de sa femme, sentait le froid d'un regard sévère. Les mots signifient quelque chose. Et dans sa nouvelle position, à la source de toutes les faveurs, que d'embarras il allait se créer avec sa fatale bienveillance. Mais cette idée qu'il était ministre, la conscience de son pouvoir le rassurèrent presque aussitôt. Est-ce qu'à des hauteurs pareilles, ces niaiseries peuvent encore préoccuper? Souverain maître aux beaux-arts, tous les théâtres sous la main, ce ne serait rien pour lui d'être utile à ce malheureux. Alors remonté dans sa propre estime, il changea de ton avec le campagnard, et pour l'empêcher d'être familier, lui apprit solennellement de très haut à quelles dignités importantes il avait été élevé depuis le matin. Le malheur, c'est qu'en ce moment il était à demi vêtu, en chaussettes de soie sur le tapis, rapetissait la bedaine proéminente dans la flanelle blanche d'un caleçon enrubanné de rose. Et Valmajour ne semblait pas autrement ému, le mot magique de ministre ne se liant pas dans son esprit avec ce gros homme en bras de chemise. Il continuait de l'appeler Moussunuma, lui parlait de sa musique, des airs nouveaux qu'il avait appris dessus. Oh, il n'en craignait pas un des tambourineurs de Paris maintenant. Attendez, vous allez voir. Et il s'élançait pour prendre son tambourin dans l'antichambre. Mais oh, Mestan le retint. Ah, puisque je vous dis que je suis pressé, que diable! Va bien, ce sera pour un autre jour, fit le paysan de son air bonasse. Et voyant mes gens qui s'approchaient, il crut devoir à son admiration l'histoire du flûtet à trois trous. Ça m'est venu de nuit en écoutant canter le rossignol. Dans moi-même, je me pensais, comment va le jour? Et c'était le même petit récit qu'il faisait là-bas sur l'estrade des arènes. Devant le succès obtenu, il l'avait retenu ingénument et mot pour mot. Mais cette fois, il le débitait avec une certaine hésitation timide, une émotion augmentant de minute en minute, à mesure qu'il voyait Roumestan se transformer devant lui, sous le large plastron de linge fin aux boutons de perles, l'habit noir d'une coupe sévère que le valet de chambre lui passait. À présent, Moussu Numa lui semblait grandi. La tête que la préoccupation de ne pas chiffonner le nœud de moussine blanche faisait raide et solennelle s'éclairait des reflets pâles du grand cordon de Sainte-Anne autour du cou et de la large plaque d'Isabelle la catholique en soleil sur le drap mat. Et tout à coup, le paysan, saisi d'un grand respect effaré, comprenait enfin qu'il avait en face de lui un des privilèges de la terre, cet être mystérieux, presque chimérique, le puissant Manitou vers qui les vœux, les désirs, les suppliques, les prières ne s'élèvent que sur du papier grand format, tellement haut que les humbles ne le voient jamais, tellement superbe qu'il ne prononce son nom qu'à demi-voix, avec une sorte de crainte recueillie et d'emphase ignorante. Le ministre! Il en fut si troublé, le pauvre Valmajour, que c'est à peine s'il entendit les paroles bienveillantes de Roumestan le congédiait, l'engageant à revenir le voir, mais seulement dans une quinzaine, quand il serait installé au ministère. Va bien, monsieur le ministre. Il gagnait la porte à reculons, ébloui par l'éclat des ordres officiels et l'extraordinaire expression de Numa transfigurée. Celui-ci resta très flatté de cette timidité subite qui lui donnait une haute opinion de ce qu'il appela désormais son air ministre, la lippe majestueuse, le geste contenu, le grave froncement des sourcils. Quelques instants après, son Excellence roulait vers la gare, oubliant cet incident ridicule dans le mouvement berceur du coupé aux lanternes claires qui l'emportait rapidement vers de hautes et nouvelles destinées. Il préparait déjà les effets de son premier discours, combinait des plans, sa fameuse circulaire au recteur, pensait à ce qu'allait dire le pays, l'Europe, le lendemain en apprenant sa nomination, lorsque, à un tournant du boulevard, dans le rayon lumineux du gaz sur l'asphalte mouillé, la silhouette du tambourinaire lui apparut, plantée au bord du trottoir, sa longue caisse battant aux jambes. Assourdi, ahuri, il attendait, pour traverser, un arrêt dans le va-et-vient des voitures, innombrables à cette heure où tout Paris se hâte de rentrer les petites charrettes à bras filant entre les roues des fiacres, et les omnibus pleins, aussi hors de l'impérial, pendant que sonnent les cornets à bouquets des tramways. Dans la nuit qui venait, la buée que l'humidité de la pluie dégageait de cette fièvre, dans cette vapeur de foule en activité, le malheureux paraissait si perdu, si dépaysé, aplati sous l'écrasement des hautes parois de ses maisons à cinq étages, il ressemblait si peu au superbe Valmajour, donnant avec son tambourin le branle aux cigales sur la porte de son mât, Hurumestan détourna les yeux, se sentit pris d'un remords qui, pendant quelques minutes, jeta comme une ombre attristée sur l'éblouissement de son triomphe.